Et avant de lire dans les Écritures le texte biblique pour ce jour, nous prions. Par ton Esprit éternel, donne-nous d'entendre ta parole à travers des mots de la Bible. Ainsi, nous pourrons voir et comprendre et découvrir dans le vécu de nos rencontres, dans le tumulte des contradictions d'aujourd'hui, la réalisation de ta promesse au cœur de nos existences. Nous t'en prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre frère, qui fait route avec nous. Amen. Nous lirons donc aujourd'hui la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Vous avez le texte. Il s'agit d'une traduction que vous ne trouverez pas dans d'autres Bibles, puisqu'elle est le produit de plusieurs autres traductions déjà existantes, et puis avec aussi quelques éléments personnels dans le travail que j'ai fait sur ce texte. Donc au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque encouragement en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie parfaite en ayant une même pensée, un même amour, une même âme, une disposition d'unité. Ne faites rien par ambition personnelle ou par vanité, mais par humilité, estimez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de veiller à ses propres intérêts, veille sur ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ, lequel, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux humains. Et ayant paru comme un humain, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a surélevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est donc avec un poème que nous entrons dans une nouvelle année au foyer de l'âme, puisque l'année d'animation et d'activité des églises locales commence en septembre. Et cette année s'ouvre de manière un peu solennelle. Nous marquons cette entrée dans l'année avec le culte, ce culte qui comporte l'accueil des enfants, des jeunes, et puis le partage de la scène. Et culte, accueil des enfants, partage de la scène, ce sont trois manières de signifier l'assemblée qui se réunit ici, pas seulement pour le culte dominical, bien sûr, et qui est une assemblée ouverte. Ouverte d'un côté par l'Évangile qui la fonde et qui ne lui appartient pas, et ouverte de l'autre côté sur ce qui l'environne, la visite, la questionne. C'est à une autre assemblée que Paul écrit, l'assemblée de Philippe, une ville de Grèce, et dans un autre siècle, le premier. Et pourtant, ce qu'écrit Paul aux Philippiens ne nous est pas complètement étranger, loin de là. Parce que nous nous demandons bien, une fois ou l'autre, ce qui nous tient ensemble. Comment donner forme à nos relations, même les plus ténues, à ce qui nous tient ensemble. Nous nous demandons ce qui est important, voire essentiel, chacun dans sa propre existence et pour l'assemblée où nous nous réunissons, quelquefois ou souvent. Nous nous demandons comment vivre en humain, dans ce monde si plein de crises, de dangers, d'épreuves, et ce qui nourrit notre assemblée, qu'elle pourrait offrir au-delà d'elle-même. Puis peut-être aussi que les enfants et les jeunes se demandent ce qui conduit leurs parents à les amener ici, et que les parents se demandent peut-être comment l'expliquer à leurs enfants. Paul propose un poème qui n'est certainement pas la réponse à toutes ces questions, parce qu'il n'y a pas une réponse déjà là pour toutes les questions. Un poème, ou plutôt un double poème, comme le suggère la mise en page du texte sur la feuille. Autant le dire tout de suite, la deuxième partie, celle qui est alignée à droite sur les feuilles, les versets 6 à 11, cette partie-là n'a pas été écrite par Paul. On l'appelle traditionnellement l'hymne aux Philippiens. Un hymne, un cantique, qui dessine un parcours de Jésus-Christ. Et Paul a reçu ce texte, il lui a été transmis. Comme nous recevons de ceux qui nous ont précédés, des cantiques, des prières, des textes de diverses origines, de différentes natures, et les Écritures elles-mêmes. Tout cela représente un trésor, une source, une mine de ressources, de mots, de pensées, d'images qui aident à exprimer ce qu'il y a en nous et ce que nous croyons, et qui nous aident à affiner nos questions et à découvrir des éléments de réponse. Et sur ce poème qui lui a été transmis, Paul en a écrit un autre, appuyé sur celui qu'il avait reçu, comme sur une fondation, un nouveau poème qu'il adresse aux Philippiens pour dessiner devant eux leur assemblée. Comment ça un poème, me direz-vous ? Il y a des impératifs à presque tous les versets. Quand ce n'est pas un impératif, c'est un subjonctif à valeur impérative. Ces versets 1 à 5 ressemblent surtout à une liste d'exhortations, comme il y en a tant dans les lettres de Paul. Faites ceci et pas cela, soyez comme ceci et pas cela. C'est plus proche du règlement intérieur que du poème. Et pourtant, l'hymne que Paul a reçu et qu'il transmet à son tour, comme le poème, comme un poème, nous conduit à lire ou à relire les versets précédents comme un autre poème. Mais commençons par l'hymne, le poème sur le Christ, les versets 6 à 11. Nous reviendrons ensuite au premier verset, le poème sur l'assemblée, le poème sur les frères et les sœurs. Un poème, ce n'est pas une définition. Ce que l'hymne déploie au sujet de Jésus-Christ, il ne l'assène pas comme un article de foi à croire un point c'est tout. Le poème ne décrit pas une réalité objectivable. Il ne fait pas état d'un savoir, pour la bonne raison qu'il évoque ce dont il est impossible de parler précisément comme si on savait exactement ce qu'il en est. Comment pourrions-nous parler de ce qui se passe en Jésus le Christ avant qu'il soit né homme parmi les humains ? Ce n'est d'ailleurs même pas une chronologie, c'est hors du temps. C'est impossible à dire, sauf avec un mythe ou un poème qui suggère, qui imagine et qui ne prétend jamais dire « c'est comme ça ». L'hymne aux Philippiens raconte un parcours, une trajectoire du Christ, comme un abaissement suivi d'une élévation et même une surélévation, une élévation au plus haut. Mais ce plus haut, ça n'est pas non plus un espace. Cet hymne sur le Christ n'est pas de l'ordre de l'explication de la nature du Christ. Il ne veut pas démontrer quoi que ce soit. Un poème, ça décale. Ça propose des images qui permettent de comprendre d'une nouvelle manière. Un peu comme le poète qui disait que la terre est bleue comme une orange. C'est important de l'entendre, de laisser l'idée tourner dans sa tête pour penser la terre. Elle est bleue comme une orange. Le poème aux Philippiens propose des images qui permettent de comprendre quelque chose du Christ et du Dieu de Jésus-Christ. Et un poème, c'est souvent assez paradoxal. Et là, il y a un énorme paradoxe. Parce qu'en fait, franchement, il n'y a rien de moins divin qu'un crucifié. Et pourtant, ce Dieu se révèle dans un homme crucifié. Et le poème nous aide à penser cela, qui heurte impitoyablement toutes les attentes humaines en matière de divinité. La croix est au centre du poème. Elle est le point d'inflexion du mouvement que raconte l'hymne, le point le plus bas de l'abaissement qui en est retourné en élévation, en surélévation. Et cet abaissement est guidé, selon l'hymne, par l'absence complète de convoitise et de cupidité de Jésus-Christ. Il n'a point regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Et ça aussi, ça percute tout ce qui caractérise l'idée commune du divin. Un divin qui ne se prendrait pas pour Dieu. Ce Jésus qui révèle Dieu, les évangiles racontent, mais autrement que le poème, qu'il n'exigeait jamais de dévotion, qu'il n'attendait pas d'admiration, qu'il n'accumulait pas les honneurs, qu'il n'était pas gourmand d'hommages, qu'il n'usait pas de force, qu'il n'a jamais pris à personne sa liberté, sa responsabilité, sa parole. Jésus n'a rien volé, au contraire. Il a rendu à celles et ceux qu'il rencontrait ce dont ils manquaient, ce dont ils étaient privés, la dignité, la confiance, l'estime de soi, la liberté intérieure et la parole. Jésus n'a pas passé son temps à défendre son rang ou son identité, il a passé son temps à ranimer la vie des autres. Ce pourquoi il a été tué et crucifié. Lui, le Christ, n'a pas considéré comme une proie d'être égal avec Dieu. La proie, c'est ce qu'on attrape de force, ce qu'on vole. En grec, cela se dit arpagmos. Et vous avez certainement entendu dans ce mot l'origine d'un nom fort célèbre du théâtre de Molière, arpagon. Le cupide qui dérobe, prend, entasse, cache, garde, Arpagon l'avare, celui dans la convoitise sans borne, lui fait sacrifier à son profit sa famille, la jeunesse, l'avenir, l'amour. Jésus, lui, s'abaisse, ou encore se vide de toute prétention, et cette humanité-là, parce qu'elle est humanité véritable, ne recule pas, même pas devant la croix. Et c'est lui que Dieu surélève. Les évangiles et Paul par ailleurs écrit, c'est lui que Dieu réveille, relève, ressuscite. C'est une manière de dire que ce crucifié était bien le Christ de Dieu, et la reconnaissance, la confession de foi, est mise en scène par le poème aux dimensions de l'univers, les cieux, la terre, sous la terre. Un contraste maximum avec la croix, l'abaissement de la mise à mort, qui résonne avec le premier paradoxe du Christ crucifié. L'égal de Dieu qui meurt sur la croix, le crucifié surélevé, voici les deux volets de l'hymne, et aussi bien l'un que l'autre est l'inverse de la conception mondaine de Dieu et du Christ. À la croix se révèle un Dieu qui n'est pas tout-puissant, à qui toutes et tous ne sont pas soumis. Et rien ne peut estomper ou enjoliver cela qui renverse toute prétention et tout orgueil. Mais le poème déplie le sens, il en trace l'espace, il en donne sa portée à sa manière de poème qui offre mais n'impose pas, qui ouvre et n'enferme pas, qui propose et ne contraint pas. Un poème qui élargit l'espace intérieur de celui ou celle qui le reçoit, qui renouvelle et ranime l'élan intérieur de la pensée, et donc de l'agir aussi. Un poème qui déploie une liberté intérieure insoupçonnée. Sans quoi le poème est une forme qui convient particulièrement bien à l'Évangile et à la foi. De même que les paraboles que nous découvrirons cette année au Caté. Alors l'hymne aux Philippiens nous invite à lire et à relire la première partie, les 5 premiers versets du chapitre, comme un poème, parce que c'est l'hymne qui inspire les mots de Paul, son évocation de l'assemblée, des relations entre les frères et les sœurs. Et si l'un repose sur l'autre, les deux poèmes sont aussi un peu en miroir. Ainsi, Paul commence par ouvrir un espace vivifiant, avec les mots d'encouragement, de consolation, de communion, de tendresse, de compassion. Laissez ces mots résonner en vous. S'il y a tout cela, écrit Paul, mais ce n'était pas une tournure hypothétique, car c'est bien cela, l'encouragement, la consolation, la communion, on pourrait dire union, la tendresse, la compassion, c'est bien cela qui tient le monde comme monde où vivre en humain, comme monde vivable pour tout humain. Encouragement, consolation, communion, tendresse, compassion. Ce sont des mots qui saisissent, qui raniment, qui rafraîchissent, qui réintroduisent dans la bonté originelle. Ce sont des mots qui ramènent à la source de la vie. Et ces mots sont une manière de dire ce qui fait vérité du monde pour celles et ceux qui accueillent le Christ crucifié et ressuscité comme révélation et manifestation de Dieu. Dans cette ouverture au don de la transcendance, le parcours du Christ selon l'hymne offre une nouvelle manière de vivre à celui ou à celle qui se laisse inspirer et qui s'en inspire. Plus besoin de jouer des coudes pour garder une place dans la compétition générale. Plus besoin de considérer autrui comme un concurrent ou une charge. Ou comme un ennemi. Nous pouvons nous tenir autrement dans la réalité du monde qui n'est pas plus douce pour les croyants que pour les autres, mais nous y tenir autrement. Et l'Assemblée, l'Église, est un lieu privilégié pour en faire l'expérience, pour y être encouragé, pour se remettre en mémoire les poèmes, pour laisser les mots et les images venir flotter, résonner, scintiller, pour se laisser inspiré. Paul écrit un poème de vie sur le poème de foi. Un poème n'est pas un règlement. La même pensée, le même amour, la même âme, la disposition d'unité ne parle pas d'uniformité. C'est que Paul est l'apôtre du sujet singulier, libre et responsable, créé par la grâce de Dieu. Il ne vise pas à une conformité monotone. Mais ce dont il parle là, c'est du commencement et de l'accomplissement en Christ de chaque existence humaine, qui sont toutes extrêmement diverses et cependant toutes appelées par le même Dieu à la vie vivante. Alors, la fraternité peut éclore, nourrie par la trajectoire du Christ évoquée par l'hymne. À l'absence de convoitise de Jésus-Christ, répond l'abandon de l'ambition personnelle, c'est-à-dire vouloir se hausser soi-même, vouloir être bien considéré, vouloir prendre le pas sur autrui. Ou pour le dire autrement, c'est aussi l'abandon de l'orgueil qui fait regarder l'autre comme un obstacle ou un objet. Abandon aussi de la vanité qui génère tant d'illusions et de déceptions et de ressentiments parce qu'elle nous empêche de paraître avec nos fragilités et nos manques. Mais cet abandon n'est pas tant le fruit d'un effort personnel que celui de l'inspiration par le parcours du Christ que chante le poème aux Philippiens. De même, à l'abaissement de Jésus-Christ répond l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas de s'écraser plus bas que terre. L'humilité, c'est de regarder l'autre comme étant élevé. Parce que c'est la destinée à laquelle Dieu l'appelle en Christ. L'humilité, c'est aussi la conscience que nous avons besoin les uns des autres. Besoin de leur aide, de leur soutien, de leur amour, de leur présence. Et alors la reconnaissance suit de près l'humilité. En quelque sorte, l'humilité, c'est le contraire de la crispation sur soi. Elle tient du lâcher prise, et ce faisant, elle laisse la place pour les autres, pour le souci des autres, pour la veille sur les intérêts des autres, écrit Paul dans son poème. Et là encore, il ne s'agit pas tant de s'exercer pour réussir à être humble que de se laisser inspirer, de s'inspirer, d'inspirer dans l'espace du poème, du double poème aux Philippiens, d'y laisser son âme, sa pensée, son regard être dilaté par le désir de vivre. C'est le chemin de l'humanité, pas seulement celui d'une assemblée, quand l'humilité nourrit la fraternité, quand nous nous accrochons, quand nous nous articulons notre existence au don et à la reconnaissance plutôt qu'à la convoitise, quand nous nous relions à ce nom qui est au-dessus de tout nom et que nous y recevons le goût des autres. Ce qui suffit pour vivre. Amen.